VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
16h à Ouagadougou, 17h à Brazzaville. Bienvenue à notre journal. On commence par le Bénin. L'homme d'affaires franco-béninois Sébastien Javon, interpellé il y a une semaine dans une affaire de trafic de drogue présumée, est jugé en ce moment même en comparution immédiate par le parquet de Cotonou. Surnommé le roi du poulet pour avoir fait fortune dans l'agroalimentaire, M. Adjavon, qui préside le patronat béninois, était arrivé troisième avec 22% des voix au premier tour de l'élection présidentielle de mars au Bénin. Il s'était rallié au deuxième tour à Patrice Talon, qui est devenu par la suite président de la République. Sébastien Adjavon, qui a dénoncé un complot, a été arrêté le 28 octobre avec trois de ses employés après la découverte au port de Cotonou de près de 14 millions d'euros de drogue dans un conteneur destiné à sa société. La gendarmerie avait déclaré à la presse avoir retrouvé dans le conteneur environ 18 kilos de cocaïne pure d'une valeur estimée à environ 9 milliards de francs CFA. Suite à son arrestation, l'ex-candidat a été mis sous mandat de dépôt, puis présenté aussitôt à ses juges. C'est une procédure normale, la comparution immédiate, et ce n'est pas la première fois que cela arrive au tribunal de Cotonou, a déclaré un magistrat. Le procès se déroule devant le tribunal de première instance de Cotonou alors que des centaines de sympathisants, amis et soutiens de l'homme d'affaires sont massés aux abords du parquet. Ce vendredi était la date butoir légale pour une décision concernant la relaxe ou non de Sébastien Javon. Au Bénin, la garde à vue peut durer jusqu'à 8 jours pour une affaire de trafic de drogue. Nigeria maintenant, la police a annoncé l'ouverture d'une enquête suite aux accusations de viol sur des femmes réfugiées dans des camps après avoir fui les violences du groupe islamiste Boko Haram. Le point avec Claire Morin-Gibourg.
Réagissant hier par un communiqué, le chef de la police fédérale, Ibrahim Idriss, s'est dit très inquiet et a désigné une équipe spécifique pour mener une enquête discrète et impartiale sur ces accusations de viol. Le président Muhammadu Buhari s'est dit également inquiet et choqué. La sécurité des camps de réfugiés a été renforcée selon la police. En début de semaine, Human Rights Watch avait porté des accusations de viol et d'exploitation sexuelle perpétrées par des policiers sur des femmes qui ont fui les exactions de Boko Haram. L'ONG américaine dit avoir recensé 43 femmes et filles dans 7 camps de déplacés autour de Maïdougouri. Elles affirment avoir été abusées sexuellement par des responsables de camps, des policiers et des soldats. Parmi ces femmes, 4 disent avoir été violées et 37 autres qu'elles ont été forcées d'avoir des relations sexuelles avec des responsables en échange de fausses promesses de mariage ou d'aide médicale ou financière.
Au Mali, la campagne pour les élections municipales du 20 novembre a débuté vendredi, donc aujourd'hui, dans une ambiance morose sur fond d'incertitude quant à la possibilité de tenir le scrutin dans tout le pays pour cause d'insécurité. Plus de 7 200 000 électeurs sont appelés aux urnes pour désigner les quelque 12 000 conseillers municipaux des 703 communes du pays dans le premier scrutin organisé depuis l'élection du président Ibrahim Boubacar Keïta en août 2013. Les élections municipales qui auraient dû avoir lieu en 2014 ne devraient pas concerner les 5 régions administratives du Nord où seront prochainement mises en place des autorités intérimaires en vertu de l'accord de paix signé en mai-juin 2015. Afrique centrale maintenant, au Cameroun, 28 victimes de la catastrophe ferroviaire qui a fait près de 80 morts fin octobre ont porté plainte contre les dirigeants de la compagnie Camrail, propriété du groupe français Bolloré, pour défaillance et négligence. Les précisions de John Lyndon.
L'information a été rendue publique ce vendredi par leur avocat. Nous avons porté plainte auprès du parquet des tribunaux de première et grande instance des ECA, ville du centre du pays où le déraillement s'est produit, a affirmé Maître Guy-Olivier Modeng, membre d'un collectif d'avocats créé pour défendre les intérêts des victimes de l'accident. Le train bondé de voyageurs a déraillé le 21 octobre à Ezeka, quelques heures après son départ de Yaoundé pour Douala. Au moins 79 personnes sont mortes et près de 600 autres ont été blessées. La plainte vise Camrail, ses dirigeants et le conducteur du train, a détaillé l'avocat. Camrail est détenu à 77,4% par le groupe Bolloré. Dans la plainte, nous pointons des négligences, des défaillances, notamment sur le système de freinage du train et des omissions de porter secours aux accidentés, a poursuivi l'avocat. Une information judiciaire devrait être ouverte à la suite d'une enquête et ce n'est qu'au terme de ces procédures que le parquet des ECA dira si un procès sera ouvert ou non.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
En RDC, interdiction de toute manifestation à caractère politique jusqu'à nouvel ordre, alors que l'opposition a promis de tenir demain un meeting politique à Kinshasa. C'est dans ce contexte qu'une délégation du Conseil de sécurité de l'ONU est attendue dans le pays le 10 novembre pour tenter de faire baisser la tension. Mulegwazi Ndula, président du Centre d'études politiques et stratégiques et ancien porte-parole du président Joseph Kabila, en visite actuellement à Washington, pense que les ambassadeurs du Conseil de sécurité enfoncent une porte ouverte. Le chef de l'État congolais ne va pas briquer un troisième mandat, dit-il. On écoute Mulegwazi Ndula.
Non, mais le président de la République s'est déjà exprimé clairement à plusieurs fois en disant qu'il va respecter la Constitution, et c'est là le cas. Si vous parlez aujourd'hui de l'impossibilité d'organiser les élections dans les délais constitutionnels, c'est la raison pour laquelle un dialogue politique inclusif souhaité par toutes les parties a été convoqué par la facilitation internationale conformément à la résolution 2277 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Donc, même le membre du Rassemblement souhaitait un dialogue et le président de la République a convoqué un dialogue conformément à la résolution 2277 du Conseil de sécurité des Nations Unies.
Mulegwazi Ndula, ancien porte-parole du président Joseph Kabila et président du Centre d'études politiques et stratégiques. En Tunisie, le ministre des Affaires religieuses Abdel Jalil Ben Salem a été limogé aujourd'hui pour atteinte au fondement de la diplomatie tunisienne, après avoir établi un lien entre le wahhabisme saoudien et le terrorisme. Les détails avec Azouma Compaoré.
J'ai dit aux Saoudiens avec audace, réformez votre école car le terrorisme historiquement vient de là. Je vous dis cela avec amour et modestie. Ce sont là quelques-uns des propos ayant entraîné le licenciement du ministre des Affaires religieuses Abdel Jalil Ben Salem, qui répondait à un député du Front populaire sur sa volonté de combattre la propagande wahhabite en Tunisie. Des propos jugés contraires aux fondamentaux et principes de la diplomatie tunisienne, a indiqué un communiqué de la présidence du gouvernement. Plusieurs quotidiens tunisiens ont toutefois consacré leur une vendredi sur ses déclarations contre le wahhabisme saoudien, une des versions les plus rigoristes de l'islam. La lutte contre l'extrémisme religieux est l'une des priorités de la Tunisie, qui a connu, après sa révolution de 2011, l'émergence d'une mouvance djihadiste responsable de la mort de plusieurs dizaines de soldats, policiers, mais aussi de civils et de touristes étrangers. Le pays compte des milliers de ressortissants dans les rangs d'organisations telles que le groupe extrémiste État islamique en Irak, en Syrie et en Libye voisine.
Présidentielle américaine 2016, le président Barack Obama bat campagne pour la candidate démocrate Hillary Clinton. Côté républicain, le milliardaire Donald Trump a fait appel à son épouse Melania Trump pour améliorer son image de marque. Anastasie Toudièche.
Barack Obama revient à la charge. Le chef de l'exécutif américain a déclaré devant une foule de partisans à Miami que pour lui, le candidat républicain Donald Trump est singulièrement non qualifié pour être président et qu'il est, de par son tempérament, inapte à diriger l'armée.
And if we win Florida, we will win this election. It is in your hands.
Si nous gagnons la Floride, nous gagnons cette élection, a assuré le président américain qui s'est rendu ensuite en Caroline du Nord, autre état décisif de cette présidentielle. Il faut dire que les milliers d'Hispaniques de la Floride soutiennent Hillary Clinton et qu'ils sont très remontés contre Donald Trump qui a promis d'expulser tous les sans-papiers. De son côté, le candidat républicain en Caroline du Nord jeudi continue de tirer à boulets rouges sur sa rivale. Pour Donald Trump, la candidate démocrate est engagée dans une entreprise criminelle en rapport avec ses emails et elle fera probablement l'objet d'une enquête sur plusieurs années.
Donald Trump a fait appel à son épouse dans la campagne, Anastasie.
Oui, Melania Trump s'est adressée aux partisans de son mari dans la banlieue de Philadelphie. Elle a promis, si elle devenait première dame, qu'elle ferait des femmes et des enfants sa priorité et s'engagerait contre le harcèlement dans les écoles. Et Madame Trump d'ajouter
« Our culture has gotten too mean and too rough. Especially to children and teenagers.
Notre culture est devenue trop dure et trop méchante et nous devons trouver une autre manière de nous parler. Deux sondages d'opinion publiés hier jeudi donnent un léger avantage à Hillary Clinton.
Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.